There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mai 2013 et c'est l'épisode numéro 110. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadgets, où on vous explique en des termes compréhensibles toute l'actualité tech et internet. J'espère que vous serez intéressé par cet épisode si c'est le premier que vous écoutez et que vous serez également intéressé si ce n'est pas le premier que vous écoutez. Ça va être un épisode un petit peu, pas forcément politique, mais en tout cas qui va parler, qui va traiter des affaires du gouvernement de ces deux dernières semaines principalement. On va aussi vous parler de Google Glass et d'autres petites news et rumeurs, mais évidemment il y a eu beaucoup d'informations plutôt intéressantes ces derniers temps et intéressantes à discuter en tout cas, donc on va vous faire un petit bilan de tout ça. Je suis donc Patrick Béja, votre hôte, et je suis avec mon camarade éternel Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu, Jeff?
Ça va très bien. Bonjour Patrick, bonjour à tous et à toutes.
Je pense que c'est vraiment le meilleur timing qu'on pouvait avoir là pour une émission avec toi. On en a sauté quelques-unes pour des raisons d'emploi du temps de ta part et du mien. Et là, tu reviens juste pour l'épisode le plus approprié, puisqu'il y a quand même pas mal de choses dont on va discuter qui sont pile dans ta sphère d'intérêt et d'influence quand même.
Yep. Je m'en régale d'avance.
Eh ben écoute, on va commencer tout de suite, on va se lancer tout de suite. À moins qu'il y ait quelque chose que tu veuilles raconter sur les quelques dernières semaines où les auditeurs t'ont réclamé à corps et à cri.
Bah c'est très gentil, ça me touche. bah non, en fait, comme tu le dis, tu es il y a un rendez-vous tech où tu étais toi sur le lancement d'un de tes jeux, donc t'étais busy, et puis après bah moi aussi beaucoup de choses se passent sur la côte ouest, énormément d'innovation, beaucoup de travail sur le portefeuille. Donc on a fait maintenant plus d'une cinquantaine d'investissements dans le nouveau fonds, on arrive à 145 je crois, j'ai même du mal à compter maintenant où on en est.
145 donc, ah oui, ça devient vraiment une industrielle presque là.
Bah c'est presque là, c'est un peu ça, c'est on a une chaîne de production et tous les mois on investit dans une ou deux nouvelles boîtes. Ouais. Et donc tout ça bah ça crée pas mal de boulot et c'est vrai qu'on était assez busy, mais on voit tous les jours, je t'en parlais un petit peu offline, on voit des trucs qui sont vraiment assez époustouflants, donc j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais.
Et donc c'est 145 sur les trois fonds, j'imagine.
C'est 145 sur les trois fonds.
Ouais. Ouais, c'est ça.
C'était 24, 80, 89, donc 65 dans le deuxième fonds, et puis là on en est à 50 et des bananes dans le troisième fonds.
Bah, effectivement, c'est pas mal de le rappeler, parce que ça va être très pertinent puisqu'on va parler du fameux deal Dailymotion et des mesures du gouvernement qu'il va mettre en place pour favoriser l'industrie tech suite à au premier contact un petit peu houleux qui a provoqué ce qu'on a appelé le mouvement des pigeons et dont on a parlé bien sûr dans le rendez-vous tech et partout ailleurs. Mais c'est bon de le rappeler. Toi donc t'es français évidemment d'origine, tu es né en France, t'es des Français, tu t'es donc exilé aux États-Unis, tu es venture capitaliste, c'est-à-dire que tu finances, enfin tu places de l'argent dans des startups pour faire ensuite une sortie quelques années après où tu vas sur certaines d'entre elles, donc certaines vont marcher, certaines ne vont pas marcher, et le but du jeu c'est de faire en sorte d'avoir investi sur certaines d'entre elles qui vont compenser et dépasser les investissements totaux, y compris celles qui n'ont pas marché. Et maintenant, Tu me diras si j'ai dit des bêtises. Hein. Et donc maintenant, tu es de nationalité américaine. Tu habites en Californie depuis plusieurs années et tu as depuis 13 ans, voilà. Et tu as obtenu ta nationalité américaine il y a un an, je crois, six
c'est
mois.
C'est ça,
non oui.
Ouais. C'était en avril 2012.
D'accord.
Bah voilà, t'as tout résumé.
Super. Donc, j'ai pas dit de bêtises.
T'as pas dit de bêtises. La seule chose que je préciserais, c'est que ce sur quoi je me focalise, c'est ce qu'on appelle les jeunes pousses en France, le early stage market aux États-Unis. Donc c'est quoi? C'est des boîtes où tu vas avoir l'équipe de fondateurs, tu vas avoir un produit qui va être en alpha ou bêta. Parfois lancé. Donc on va pas financer le développement du produit, mais on va typiquement financer son lancement définitif, c'est-à-dire que
on va arriver sur le marché, quoi.
Son arrivée sur le marché. Donc on va prendre le feedback des utilisateurs, genre qui ont été mis en place devant l'alpha ou qui ont vu l'alpha ou la bêta, pour essayer de voir quelles sont l'adoption, la répétition d'utilisation, etc., qu'on peut apprendre, qui nous donnera une idée de ce qui se passe une fois que le produit est lancé. Mais une fois qu'on a une espèce de confirmation, qu'on sent que c'est un produit intéressant, à ce moment-là, on va investir, on va faire un chèque de $500,000 qui va rentrer dans un tour, typiquement d'un million, deux, un million, cinq en dollars, des fois 2 millions, et on va aider la boîte à se développer sur 12, 18, 24 mois, et après, à l'élever beaucoup plus d'argent.
D'accord. Et donc, il y a évidemment le chèque, mais il y a aussi, si j'ai bien compris, si je ne dis pas de bêtises encore une fois, un accompagnement stratégique de la société, c'est ça?
Oui, c'est... Je dirais que l'argent est nécessaire, parce qu'on peut pas dire on peut tout faire sans l'argent, mais c'est vraiment la valeur ajoutée qu'on va amener qui sera la réelle plus-value de la transaction. Et c'est pour ça que dans la vallée où tu peux avoir différentes sources de financement, tu vas toujours aller chercher la plus stratégique, c'est-à-dire celle qui va être le plus utile.
D'accord. Bon, c'est effectivement assez intéressant, puisque ça couvre en grande partie le type d'industrie que voudrait développer le gouvernement, et d'ailleurs qu'appellent de leur vœu les entrepreneurs en France, c'est-à-dire une sorte de développer cette scène de start-up et d'industrie tech qui est très florissante aux États-Unis et ailleurs, hein, et qui peine à démarrer un petit peu en France pour différentes raisons dont on parlera, mais c'est vraiment cette vue de l'intérieur dont on va pouvoir bénéficier pour l'analyse des mesures qu'on détaillera dans quelques minutes. Mais alors, avant ça, on a un autre sujet qui est extrêmement intéressant pour le domaine des affaires et de l'industrie tech, qui est ce fameux sujet du deal entre Yahoo et Dailymotion. Vous en souviendrez peut-être, dans l'épisode précédent, je crois, on a parlé du fait que Yahoo voulait racheter Dailymotion, ou au moins y prendre une participation élevée, d'environ 75% d'après les rumeurs. Deal qui a été problématique, qui avait au sein de Yahoo des différences d'opinion dans le management entre Marissa Mayer et d'autres membres de son équipe. Et il y a eu un gros souci la semaine dernière, puisque le gouvernement est intervenu dans cette affaire. Rappelons que le gouvernement est actionnaire indirectement de Dailymotion, puisqu'il est propriétaire à 26 ou 27% d'Orange, et Orange étant propriétaire à 100% depuis quelques mois de Dailymotion. Donc, il y a une sorte d'enjeu national presque qui s'est créé autour de Dailymotion, puisque c'est considéré par beaucoup comme le joyau de l'industrie tech française, puisque même si Dailymotion est assez petit par rapport à YouTube, beaucoup l'appellent le YouTube français, et c'est peut-être pas le seul, mais le concurrent principal de YouTube dans le domaine du streaming de vidéos en ligne. Il faut savoir que, on va peut-être en parler à la suite, Dailymotion reste quand même... Il y a là le premier... la loupe déformante sur Dailymotion, qui est sans doute vue d'une manière un petit peu différente en France, parce que Dailymotion, c'est 200 employés et un chiffre d'affaires relativement faible, quelques millions d'euros. Là encore, je ne dis pas de bêtises, je prends des pincettes pour tout. Mais donc, c'est pas une énorme boîte en France. Et c'est pas une énorme boîte au niveau mondial, mais en France, elle est considérée vraiment avec beaucoup de fierté. Et donc, revenons à ce qui s'est passé la semaine dernière. Le gouvernement est intervenu. Il a convoqué en quelque sorte les exécutives, les responsables d'Orange et de Yahoo, et il leur a dit, il a mis une sorte de coup d'arrêt au deal en disant hors de question que Dailymotion passe sous contrôle américain. C'est hors de question. Et là où il y a eu beaucoup de critiques qui se sont élevées contre cette action, c'est que, évidemment, l'État est actionnaire d'Orange et donc a son mot à dire sur Dailymotion, mais le fait qu'il convoque des parties externes, en fait, finalement, Yahoo et Dailymotion, pour leur dire « non, ça se passe pas comme ça », c'était considéré pour le moins comme maladroit. Alors, ça, c'est la manière dont on peut l'analyser un petit peu froidement. Je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat, en France et aux États-Unis, la chose a été jugée beaucoup plus sévèrement, Jeff. Est-ce que tu peux nous dire comment on l'a vu dans le milieu de l'industrie tech et des startups, d'une part, et ensuite, toi, ton analyse personnelle?
Oui, bah, je pense que... La réaction initiale, c'est de la connerie en barre, puisque par définition, c'est vrai que Dailymotion est une réussite. La boîte s'est très bien développée, a une belle traction, mais ça reste un petit poussé en comparaison à YouTube. Donc c'est vrai que, dire c'est le compétiteur, c'est pas vraiment vrai au sens où. J'ai pas les chiffres de trafic relatifs de l'un par rapport à l'autre, mais YouTube est des dizaines de fois plus gros que Dailymotion. Mmh. Donc le problème, c'est quoi? C'est que pour faire une réelle compétition à YouTube et à d'autres channels, il faut vraiment avoir des moyens, faut avoir du marketing, faut être capable de développer du contenu. YouTube l'année dernière a dépensé quelque chose comme 100 millions de dollars de manière à faire aider le développement de contenu au travers de deals qu'ils avaient avec différentes chaînes. Et donc sans ça, en gros, la croissance de Dailymotion est contrainte. Et malheureusement, en termes de moyens, il y a deux choses. Un, c'est de l'argent, avoir donc cette capacité à financer sa croissance, mais aussi des partenariats de distribution. Mmh. Et Yahoo, de ce côté-là, a amené les deux. À la fois des moyens, puisque bon, Marissa a clairement besoin d'investir sur différents segments, et la vidéo, ça reste aujourd'hui un segment extrêmement porteur où Yahoo est pas positionné. Donc c'était logique qu'elle aille chercher le numéro 2, sachant que elle a encore 500 millions de gus qui se pointent sur la homepage de Yahoo chaque mois, malgré le fait que c'est une propriété où il n'y a pas énormément de choses qui se passent. Tu restes encore chez Yahoo dans un des top 5 ou top 10 au niveau mondial.
Ça reste une propriété web donc plus populaire.
Donc c'est énorme. Donc ça veut dire que ça avait du sens au niveau distribution. Et puis elle a des moyens. Donc la réaction franchouillarde pour aller là, qui est « Ah bah non, on veut pas que ça tombe dans les pattes des Américains », malheureusement, c'est le pire qu'ils pouvaient faire pour Dailymotion, parce que par définition, c'est l'étape, en gros, qui amène une boîte française au succès, c'est quand elle est partiellement ou totalement reprise par un grand américain pour l'amener à l'étape au-dessus.
C'est vrai que c'était beaucoup de gens, effectivement, ont dit que c'était l'étape stratégiquement pour continuer à grossir. C'était un truc extrêmement important. Mais si on veut voir les choses du côté franchouillard, si Yahoo rachète 75% de Dailymotion, du coup, la société devient en quelque sorte américaine, est-ce que ça vaut le coup, finalement, de vendre le bébé Dailymotion puisqu'il sera plus vraiment français? Quel est l'intérêt, finalement, pour la France, si on voit la chose de manière, encore une fois, franchouillarde, quel est l'intérêt de vendre le truc et de s'en laver les mains, presque?
C'est là où pour moi, c'est pas parce que tu vends ta boîte à un Américain que tu restes pas français, que tu bénéficies pas. Pour moi, en fait, qu'est-ce qui manque à l'écosystème français aujourd'hui, au niveau entrepreneuriat? C'est des grands succès de boîtes où le management, les fondateurs vont développer la boîte, la vendre, participer à son évolution au sein de l'acquéreur, et ensuite partir pour faire des autres boîtes. Mmh. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que la vallée est si unique? C'est parce que tu as, depuis 40 ans, des générations entières de fondateurs qui ont eu du succès, des générations entières d'employés 1 à 50 de cette boîte qui ont eu du succès, qui ont fait de l'argent, qui ont construit de l'expérience et qui sont partis faire leur propre boîte. Et donc aujourd'hui en France, on est trop contraint en termes d'univers de sortie. Et pour moi, le fait de contraindre Dailymotion à être racheté par un groupe français, parce que j'ai vu qu'il y avait des discussions avec le groupe Xavier Niel, etc., pour un prix qui est largement inférieur aux 300 millions que Yahoo était prêt à mettre sur la table, parce que bon, quand même, 300 patates, faut pas exagérer, c'est pas rien. Et donc, le fait de les mettre dans un giron français, ça veut dire que c'est un peu comme la royauté, tu te maries entre cousins et puis au bout d'un moment, c'est pourri, quoi. Le DNA est pas renouvelé. Et donc, la tragédie pour moi, c'est pour ça, c'est ce que j'ai tweeté à Benjamin Bechbaum, c'est le mec, il doit avoir les boules de folie, parce que c'était pas seulement vendre sa boîte, parce que de toute façon, il l'avait déjà vendue à...
Oui, finalement, elle appartient à Orange, qui est une multinationale d'origine française, mais quand même.
Mais c'était un vrai développement pour la boîte, pour la marque, pour lui. Je veux dire, être le bras séculier de Yahoo au niveau vidéo, tu m'excuses, mais c'est super sexy.
Mmh, ouais. Et surtout
Et cette notion de c'est la pépite française, on peut pas y toucher, ça revient en fait à la position de la France qui se croit unique dans un marché mondial et où il pense que ça vaut le coup de défendre le fait que la boîte soit française. Et c'est de la crenée en barre. Parce que par définition, aujourd'hui, les grands de l'Internet, c'est les Américains, c'est les Japonais. Je veux dire, Price Minister, ils ont été rachetés par une boîte japonaise. Hein. PKM, Pierre Kosciusko-Morizet. Il bosse pour Mickey chez Rakuten. Je pense pas que le Gus il soit malheureux. En tout cas, la dernière fois que je l'ai vu, il était pas malheureux. Ouais. Et tu vas avoir les grands chinois. Tu vas avoir... donc en gros aujourd'hui, mis à part Xavier avec Free, Jacques Antoine avec vente privée. Je veux dire, Marc il a été racheté aussi. Hein, Marc Simoncini. Donc tout ça, retombes dans un.
Ouais, finalement, ce que tu dis, c'est que le fait que ça soit racheté par des étrangers ou pas, finalement, c'est pas tellement important. C'est que la sortie qui ramène beaucoup d'argent et d'expérience et de renommée te permet ensuite, je veux dire, la sortie financière, le rachat, te permet ensuite de recommencer quelque chose d'autre. Et c'est ça qui crée cette génération et ce dynamisme d'entrepreneurs au niveau national, quoi. Peu importe qu'on soit racheté par tel ou tel groupe étranger. C'est un peu ce que tu dis, n'est-ce pas?
Oui, c'est, en fait, t'as plusieurs facettes. T'as la facette entrepreneur où, de toute façon, sauf si tu arrives à rentrer sur le marché public sur des vrais IPO où tu as du volume, donc sur les marchés américains où c'est extrêmement difficile et seuls les meilleures boîtes qui arrivent, les entrées en bourse. Tu vois, récemment, on a eu une vente d'une boîte dans laquelle j'ai investi il y a presque 7 ans maintenant, Mashery, qui a été rachetée par Intel pour 180 millions. Mmh. Bah, on n'est pas là en train de pleurer qu'on a perdu notre indépendance. Non, pourquoi? Parce que d'un seul coup, Mashery va avoir les moyens d'Intel pour déployer sa présence au niveau mondial. C'est génial. Je peux dire que le CEO, non seulement il va faire un paquet de fric, mais c'est surtout la possibilité d'avoir une plateforme qui va, en gros, passer ta croissance en mode turbo. Mmh. Et je pense que c'est sûr ça la philosophie des entrepreneurs aussi.
Ouais, effectivement, le fait d'avoir Dailymotion comme bras vidéo de YouTube aurait été incontestablement un développement accéléré, invraisemblable, quoi. Devenir les vidéos de YouTube dans leur ensemble, c'est vrai que ça aurait immédiatement amené Dailymotion à un niveau auquel il n'est certainement pas aujourd'hui et auquel, même si le Vivendi ou Niel Pigas-Berger les rachètent, bon bah ça va pas leur donner cette forme de d'exposition internationale. Il y a un autre aspect que je voulais traiter aussi, c'est le fait que là encore au niveau international, le fait que le gouvernement intervienne dans le deal et fasse un petit peu la maman qui tape sur les mains des enfants qui ont pas été gentils et qui disent non, ça se passe pas comme ça, ça a été vu de manière assez ça a beaucoup refroidi les ardeurs d'entrepreneurs étrangers qui déjà n'était pas hyper chaude. Je parle toujours des ardeurs. Donc c'est un petit peu genre c'est hyper dangereux et c'est un peu con d'aller en France parce que l'État ne laisse pas les choses se dérouler normalement à un niveau qui Je sais qu'en France, on aime beaucoup l'État providence et l'État qui gère tous les problèmes, mais là, on dépasse un petit peu les prérogatives de l'État.
Oui, et je pense que, enfin, ça, c'est, si vous, pour moi, il y a trois facettes. Il y a la partie entrepreneuriat, on vient d'en parler. Mmh. Il y a la partie France comme écosystème dans lequel tu peux te développer. Et le troisième partie, c'est la vision des investisseurs. Mmh. Donc, d'un point de vue industriel, déjà, les Américains n'aiment pas la France à cause des lois protectionnistes pour l'emploi qui sont, enfin, je veux dire, c'est le cauchemar des patrons américains parce que aux États-Unis, on a la flexibilité.
Oula. On a une petite coupure d'internet.
Tu m'entends?
Ah, bah, t'es revenu.
Désolé, c'est moi qui appuie sur le mauvais bouton.
Ah. Ma bad.
Donc, la flexibilité de l'emploi qui est, en gros, la possibilité d'embaucher très très rapidement et de grossir très rapidement ta masse salariale parce que tu peux la réduire très rapidement aussi.
En gros, pour dire les choses clairement, ça veut dire que les CDI, les contrats à durée indéterminée en France, ne permettent pas le renvoi facilement et que donc par effet pervers, ça permet pas l'embauche puisque les gens ont peur d'embaucher parce qu'ils se disent qu'ils pourront pas réduire la masse.
Et tu te retrouves dans une situation comme l'Espagne où en fait toutes les embauches sont sur des contrats à durée déterminée où il n'y a aucun développement de des employés parce que par définition ils sont en CDD et donc tu te retrouves dans une situation où la moitié du pays va se retrouver au chômage. Aux États-Unis.
Bon, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais oui, je comprends la vision.
Tu regardes les jeunes, le chômage au niveau des jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas d'ailleurs, est absolument effroyable. C'est plus de 30%. En Espagne, je te parle pas en France.
Oui, Espagne. Oui, tout à fait.
Donc, ce que je veux dire, et je fais pas une plébiscité des États-Unis, c'est juste que aujourd'hui, en tant qu'investisseur dans les startups, on sait qu'on peut embaucher 100 personnes en 6 mois parce que on peut virer 100 personnes en 2 jours. Mmh. Et donc, la capacité que les boîtes ont à grossir très vite, ça permet justement cette espèce d'hypercroissance que la France envie aux États-Unis. Malheureusement, tu peux pas avoir
le beurre
ton gâteau
et
le manger. You can't have your cake and eat it. Ouais. Et donc, le prix à payer, c'est la flexibilité de l'emploi. Et donc, le patron américain qui regarde la France a déjà peur de cette notion de protection de l'emploi. Si tu rajoutes derrière le gouvernement qui commence à jouer les rois à la cour en disant « Ah bah non, ça me plaît pas, on pète le deal », je veux dire, c'est même plus la douche froide, là. C'est « Ok, bah on oublie la France ». Et malheureusement, c'est la même chose chez les investisseurs, parce que aujourd'hui, le gouvernement souhaiterait que les Américains, parce que clairement, la plupart des fonds capital risque sont ici, mais les Américains, les Anglais investissent en France. Mais en gros, nous, on fait de l'argent quand on peut maximiser notre sortie. Et en gros, si je regarde en tant que VC, ah bah voilà, j'investis dans une boîte française, mais j'ai toujours le risque que un gus au gouvernement qui n'y comprend rien à rien me bloque une sortie qui va maximiser ma sortie à moi. Qu'est-ce que je fais? J'ignore complètement les dossiers français. Je me pose même pas la question.
D'accord. Bon, effectivement, je pense que la question de l'emploi, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens chez nos auditeurs qui auront des choses à dire et qui penseront différemment. Mais c'est sûr que si on analyse la chose telle qu'elle se passe en France et telle qu'elle se passe aux États-Unis, il y a des avantages et des inconvénients à chaque système, c'est certain. Et je pense qu'on peut tous admettre que l'un des inconvénients du système français où l'emploi est très protégé, ce qui a ses avantages aussi. L'un des inconvénients, c'est le fait qu'on réfléchit à deux fois avant d'engager quelqu'un, ça c'est sûr. Ensuite, pour l'interventionnisme du gouvernement, je pense que là, par contre, tout le monde sera d'accord sur le fait que cette opération n'était pas hyper habile. Peut-être que si vous pensez différemment, vous pourrez venir nous le dire dans les commentaires de l'émission. On serait très intéressé d'entendre ce que vous avez à nous dire. Mais on a commencé à toucher donc aux mesures que pourrait prendre le gouvernement, ou en tout cas à l'attitude qu'adopte le gouvernement vis-à-vis de l'industrie tech en général. Et là, donc, on en vient à notre deuxième sujet, les assises de l'entreprise qui se sont closes il y a une semaine environ et qui ont donné lieu à une série d'annonces du gouvernement. Il faut savoir que cette série de rencontres a été initiée par Fleur Pellerin à la suite de de l'incident provoqué avec les pigeons. Vous vous en souvenez, c'était suite à ces annonces un petit peu affolantes pour l'industrie tech et les investisseurs il y a quelques mois, donc qui spécifiaient que les sorties et les ventes d'entreprises seraient taxées d'une manière qui était considérée comme excessive par un certain nombre d'acteurs du milieu. Donc il y a eu un gros mouvement médiatique dont vous vous souvenez certainement. Fleur Pellerin et le gouvernement sont pas restés les bras croisés. Ils ont initié ces discussions dont les résultats sont les suivants. Alors, on va faire les choses simplement. Je vais lire les mesures principales qu'on a entendues dans cette annonce qui a été faite par François Hollande. Et tu vas nous dire, Jeff, toi, en tant que multinational VC of prestige, ce que tu en penses. Alors, première mesure, c'est un programme sur l'entrepreneuriat de la sixième à la terminale et des modules d'entrepreneuriat dans l'université. C'est-à-dire que on a constaté qu'il y avait un besoin, une demande de la jeunesse et de l'industrie certainement pour donner envie et faire comprendre aux gens ce que c'est que l'entrepreneuriat. On n'a peut-être pas tellement cette culture en France et Hollande disait très justement, il y a 20 ou 30 ans, aucun gamin au sortir du lycée n'aurait dit « Ah, moi j'aurais aimé avoir des cours sur l'entrepreneuriat ». Aujourd'hui, la culture de l'entreprise et du travail sont différentes, donc il voudrait faire passer cette envie par un programme scolaire. Bonne idée, mauvaise idée, Jeff?
Bah, je pense que, écoute, tout ce qui est en faveur de l'entrepreneuriat est positif. Donc, tu vas pas m'entendre dire « Oh, ça sert à rien », etc.
Ouais.
La chose objective, donc bon, ma fille est en sixième, elle a 12 ans, tu lui parles d'entrepreneuriat, bon, je pense que c'est un concept qu'elle identifie parce que, je dirais, c'est ce que je fais, elle voit nos copains entrepreneurs, machin et tout, mais je suis pas sûr que ça l'inspire en tant que tel. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de bien quand tu rentres en donc la high school américaine, qui est la troisième française, où là, en gros, expliquer ce que ça veut dire et faire comprendre. En fait, le problème, c'est un problème culturel. Deux choses. Un, c'est faire comprendre aux jeunes que c'est aussi noble que d'aller chercher un job dans une grande entreprise et ce sera aussi potentiellement intéressant, parce que moi, je me rappelle. Il y a longtemps, quand c'était mon tour, que j'ai dit à mon papa, ma maman que je ferais une start-up, bah ils se sont dit oh bah c'est risqué, tu comprends, tu prends, t'es entrepreneur parce que t'arrives pas à trouver un job, etc. Donc
justement tu dis c'est il faut changer la culture, c'est peut-être effectivement un moyen de changer la culture.
Tout à fait. Mais changer la culture, ça implique plus que ça, mais on y reviendra. Donc d'accord. Je pense que ça c'est positif.
La sixième surtout, c'est peut-être un peu tôt, mais pourquoi
sixième,
pas.
Sixième c'est un peu trop. Troisième, seconde, première, terminale, ce qui est en gros, et tu regardes un petit peu ce qui se passe dans les high schools américaines, en tout cas dans la vallée, t'as beaucoup de présence de, bah, tu vois, moi j'étais parlé à l'école de mon fils, donc t'as des VC, t'as des entrepreneurs qui viennent parler pour que les gamins, en fait, vivent le fait d'être entrepreneur et d'avoir envie d'être entrepreneur plutôt que d'aller chercher un job comme étant tout à fait naturel. C'est une aspiration complètement acceptée.
Ouais, bon, c'est vrai que certains diront peut-être que la Silicon Valley c'est un milieu un petit peu particulier, mais en même temps c'est ce que, en partie pour ce domaine d'activité de l'économie française, c'est ce qu'on aimerait émuler, donc pourquoi pas.
Rappelle-toi, enfin l'entrepreneur le plus jeune que j'ai jamais fondé, il avait 19 ans et c'était sa troisième boîte.
D'accord. Oui, effectivement. Bah d'ailleurs, on a entendu il y a pas longtemps ce jeune homme qui avait fondé Sumly, qu'il a vendu justement à Yahoo pour une somme rondelette. La banque publique d'investissement qui met en place un financement spécifique pour la création d'entreprises dans les cités défavorisées, avec un accompagnement, un tutorat. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est un moyen de redynamiser le tissu social dans les milieux un peu plus défavorisés. Bon, il y a tout le débat sur la discrimination positive qui peut faire suite à ce type de mesure, mais j'irais pourquoi pas, quoi. Donner envie aux jeunes dans les milieux défavorisés encore plus qu'ailleurs, bon, pourquoi pas.
Ouais, je pense que ça a du sens. C'est plutôt sur le côté égalité sociale que sur sur le côté entrepreneuriat, mais bon, c'est aussi nécessaire, hein, faut pas se le cacher. Le problème, Le souci en fait majeur avec cette approche, c'est de dire c'est l'État qui va distribuer les fonds, qui va choisir les projets qui vont potentiellement avoir du financement. Et ça, c'est franchement un no-no. Enfin, d'après l'expérience qu'on a aux États-Unis, où on a un marché extrêmement actif au niveau VC, c'est que en gros, il y a des gens qui sont payés pour faire cette espèce de tri sur quel projet devrait être fundé, quel projet devrait pas être fundé, de manière à ce qu'on puisse créer des entreprises avec beaucoup de succès. Et donc, à tort ou à raison, c'est ce qu'on fait, c'est notre métier, et on est généralement, enfin, la seule raison pour laquelle on est dans ce métier, c'est qu'on est bon à le faire, parce que sinon, on réussit pas à lever des fonds.
Ouais, c'est donc, ce fameux débat, est-ce que l'État peut faire telle ou telle chose, et en l'occurrence, sur ce domaine, tu penses que c'est pas forcément le domaine de compétence de l'État, quoi.
C'est un peu le problème, c'est voir comment est-ce qu'ils peuvent amener des acteurs du privé autour de la table pour que ce soit ces gens-là en fait qui fassent tout ce qui est éducation, tutorat, mentorship, etc. C'est pas facile, donc bon, c'est positif qu'ils aient cette mesure. La question, c'est comment ils la mettent en place.
Alors, un autre dispositif qui, là, met un petit peu plus l'accent sur l'initiative personnelle et privée, c'est un dispositif entrepreneur-étudiant qui permettra aux étudiants de garder la sécu sociale et de faire refinancer leurs prêts d'étudiants de manière à pouvoir faciliter le passage du monde de l'étudiant au monde de l'entrepreneuriat avec un petit peu de sécurité, donner un petit peu de sécurité à ces entrepreneurs pour qu'ils osent un peu plus se lancer. C'est bien, ou alors est-ce qu'il faut qu'ils aient le feu sous les fesses pour se donner à fond, ou est-ce que c'est bien qu'ils gardent ce type de sécurité quand même?
Non, bah écoute, c'est c'est vrai que le fait d'avoir le feu aux fesses, ça va te motiver. D'un autre côté, moi j'étais dans ce cas-là quand j'avais j'ai rejoint ma start-up quand j'étais encore à l'école. Si j'avais eu un mécanisme pour avoir la sécu étudiante et que j'avais pu, parce que j'avais aussi un prêt étudiant je me rappelle à l'époque je vivais sur 20 000 francs par an. C'est pas beaucoup.
C'était une autre époque.
Et donc, si j'avais pu avoir une adaptation de mon remboursement de mon prêt de 60 000 francs que j'ai payé sur des années au début, ça aurait été positif. Donc, la question, c'est comment on peut faire en sorte que les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat puissent le faire sans pour autant qu'ils soient assistés. Pour moi, c'est ça. C'est, on peut pas les assister, mais si on peut faire des petits aménagements comme celui-là pour les aider, je pense que c'est super positif.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles aujourd'hui qui créent des sortes de start-up, des projets de fin d'année ou de fin d'études qui sont en fait la création de start-up. Et il y a, je connais des étudiants qui aimeraient lancer leur projet dans la vraie vie. Peut-être que ça pourrait les aider. Enfin, il y a une sorte d'appétence quand même en France. Je pense qu'on le dit pas assez quand on parle des États-Unis, mais une des choses qui est très sensible en France, c'est qu'il y a un appétit, une envie de tech et d'entrepreneuriat quand même quelque part. Alors sans doute la clé, comme tu le dis Jeff, c'est de pouvoir donner les moyens aux gens de se lancer sans forcément assister ce type d'initiative.
Absolument, j'ai vu ça il y a deux semaines et demie, j'avais 94 HEC entrepreneurs devant moi où on faisait une causerie le soir, et ils étaient tous des entrepreneurs. Bon, HEC, c'est quand même, c'est déjà une belle réussite d'avoir intégré, etc. Mais c'était en gros, si je fais cette filière, c'est parce que je vais pas aller chercher un job, je vais pas aller bosser pour l'administration, je vais me barrer, créer ma boîte. Et ça, c'est super positif. Et en gros, il me disait, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, poursuivez votre passion, ne le faites pas parce que c'est bien d'être entrepreneur, même si tu penses pas qu'en France ce soit le cas, mais ici, aux États-Unis, c'est tellement glorifié d'être entrepreneur que t'as des gens qui le font juste parce que c'est cool. Mais pensez juste à une chose, c'est la boîte que vous créez, c'est pas une boîte française, c'est une boîte avec des ambitions européennes, des ambitions globales. Il se trouve que la France est votre premier marché, mais ne vous arrêtez pas là, parce que si vous arrêtez là, ce sera super difficile de créer une boîte d'une réelle valeur. Et si vous avez l'opportunité, tirez-vous aux US, parce que c'est là où on peut créer des boîtes dans une plateforme mondiale. C'était pas barrez-vous de France à tout prix, mais ayez conscience de la différence de plateforme et d'approche et d'écosystème quand vous venez ici. Je pense qu'après deux semaines passées dans la vallée, ils en avaient une très bonne idée.
Ouais, donc ça veut dire que avec autant d'efforts en France et aux États-Unis, enfin dans la vallée en tout cas, les efforts portent plus et donnent plus de résultats quand on est dans l'écosystème de la Silicon Valley. C'est ce que tu dis.
Je sais, c'est plus facile dans la vallée, mais il y a beaucoup plus de. C'est juste un environnement complètement différent. On va essayer de te pousser à créer quelque chose de plus gros. C'est plus gros, plus grand, plus fort. Mais si tu, mais le, les plantes sont les mêmes, quoi. Simplement, c'est aussi dur de créer quelque chose qui a de l'impact que quelque chose qu'on n'a pas. Donc autant créer quelque chose qui a de l'impact.
Ouais, effectivement. Bon,
et
en
surtout,
même temps.
Et le, et je veux vraiment pas que ça passe comme de l'anti-français, parce que pour moi, ce que je leur disais, c'est plus de la moitié des Français, enfin, je sais pas en fait, c'est plus de 60% des Français qui partent aux États-Unis reviennent en France. C'est-à-dire que nous, le one-way ticket, le fait qu'on est, on était parti pour jamais revenir, c'est assez en fait unique. Et donc, la France, en tant qu'écosystème, bénéficie de tous ces jeunes qui vont s'expatrier et qui reviendront in fine. C'est ça le truc que tout le monde doit comprendre, c'est que construire un écosystème d'entrepreneuriat en France, ça va pas prendre 5 ans, ça va pas prendre 10 ans, c'est-à-dire que les échéances typiques des hommes politiques, ça va prendre une génération. Et ouais, c'est ça en fait qu'il faut reconnaître pour que dans 10 ans, l'écosystème français se retrouve vraiment.
Bah, c'est peut-être effectivement avec bon en partie ce dont tu parles et puis en partie ces mesures qui sont prises enfin qui veulent être prises par le gouvernement, qui sont annoncées par le gouvernement, qui effectivement d'après ce que nos deux analyses, si je comprends bien, pourrait être être positif à la lente construction de ce changement culturel, quoi. Un autre élément, c'est le visa entrepreneur avec des procédures accélérées. Dont on, je parlais de la question du visa entrepreneur dans le dernier épisode avec Cédric Ingrand. C'est marrant parce qu'effectivement, il a été annoncé par le gouvernement donc quelques jours après. Il faut savoir que ce visa aurait évidemment des conditions d'expertise dans le domaine dans lequel on veut fonder sa start-up et de financement. Donc, il faut déjà avoir un financement. Donc, c'est pas un visa pour dire. Enfin, il suffit pas de dire oh, ben, moi, je voudrais faire une start-up et paf, on te file un visa. Il faut déjà avoir travaillé son projet, avoir une expertise, etc., etc. Mais il n'empêche, c'est exactement ce qu'on disait. Il faut donner aux gens, aux forces de ce type d'industrie, la possibilité de venir réussir en France aussi. Il n'y a pas de raison qu'on les oblige finalement à aller ailleurs.
Et ça, c'est vraiment super. Qu'ils, alors ça.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ça fait 3 ans que je me bats et que la Silicon Valley se bat pour obtenir ça du gouvernement américain. C'est-à-dire que le Entrepreneur's Visa.
Là, c'est en cours, hein, si je comprends bien. C'est en train de.
Mais ça fait 3 ans qu'on se bat. Et malheureusement, il y a 2-3 crétins à Washington qui veulent que le Entrepreneur's Visa soit traité en même temps que les 10 millions d'immigrés mexicains, sud-américains, etc., illégaux. Alors que, par définition, ce qu'on demande, nous, c'est 2 choses. Un, c'est que quand t'as quelqu'un qui a passé 5 ans dans les écoles américaines sur un visa d'étudiant et qui se fait virer pour rentrer dans son pays, qui est forcé de rentrer dans son pays plutôt que de rester aux États-Unis, là où en fait il a été, on a dépensé beaucoup d'argent pour le former, l'amener à un niveau en formation, hein, c'est débile. Et deux, tu regardes notre portefeuille, on a des fondateurs qui sont anglais, on a des Français, on a des Australiens, on a des Finnois. Et en gros,
des Indiens. Je parlais des Indiens justement avec leur
t'as,
nom.
T'as aussi des Indiens. Ouais. T'as des Chinois. Enfin, en gros, ouais. Tu as les fondateurs qui vont avoir leurs idées, quelle que soit leur leur race, religion, tu vois, etc. Mais une fois que tu les as ici et que tu leur as donné de l'argent, ils vont créer des jobs aux États-Unis. Ouais. Et donc, le fait que tu ne facilites pas ça, c'est complètement débile dans un monde où, de toute façon, on a besoin de plus de jobs. Et donc ça, j'applaudis à deux mains, à deux pieds, si j'ose dire, le fait qu'ils reconnaissent en France que c'est nécessaire, parce que ça va, c'est créateur de jobs et de jobs qui sont très bien payés. Et donc, les Anglais ont eu vent de ce visa, de ce type de visa, il y a à peu près 2 ans, et ils l'ont passé en 9 mois. Et le fait que l'immigration soit toujours un des problèmes qu'Obama n'a pas attaqué, bon, je pense que là c'est bon, enfin, je knock on wood, mais on continue à se battre pour le faire passer, quoi. Et c'est ouais. C'est un peu déplorable.
D'accord. Bah justement, un autre sujet qui peut être intéressant, là encore, avec ta vision de l'écosystème de la Silicon Valley, c'est la suppression de l'indicateur de première faillite sur les fichiers de la Banque de France. C'est-à-dire que l'un des autres gros problèmes culturels qu'on a en France et qui entrave largement l'entrepreneuriat, c'est la stigmatisation de l'échec. C'est-à-dire que quand on a raté un truc qu'on a essayé, du coup, on a vraiment raté quelque chose, quoi. Et c'est vu de manière très négative. Et évidemment, comme le disait quelqu'un de très intelligent, dont je ne sais plus de qui il s'agit, le meilleur moyen de ne rien rater, c'est de ne rien essayer. Et là, effectivement, la culture de la start-up, c'est le fait d'essayer quelque chose, et si tu te plantes, bah, c'est pas grave, tu te relèves et t'essayes autre chose. Donc là, le fait de supprimer cet indicateur sur les fichiers de la Banque de France qui vont faire que on pourra plus voir si tu t'es planté, si t'as mis une entreprise en faillite, bonne chose, est-ce que c'est artificiel? Qu'est-ce que t'en penses?
Bah, écoute, j'ai vu ça et je sais même pas en fait comment, parce qu'aujourd'hui on sait très bien, quand on va regarder des entrepreneurs et qui ont planté en fait des boîtes dans le passé, on fait toujours des références sur des prises de références sur oui. sur eux, et on découvre ça, et typiquement ça fait partie de ton apprentissage. Donc on te dit bah j'ai planté 2 boîtes, j'en ai réussi une et tout. Je sais pas en fait si ces fichiers, bon, si t'es passé par une faillite personnelle, ça va effectivement être dans ton dossier, mais le fait d'avoir planté une boîte, c'est pas enregistré quelque part. Donc effectivement, le problème, et c'est pour ça que quand tu viens aux États-Unis, enfin quand tu viens dans la Silicon Valley, l'approche que l'on a face à l'échec est beaucoup plus serein, parce qu'on dit bah oui, bah si t'essaies quelque chose de super risqué et d'improbable, le fait que tu te pèses la gueule, c'est pas étonnant. Et donc, ouais, par définition, sûr. personne t'en voudra. Et si jamais t'as planté, à partir du moment où t'as été super honnête, que t'as bossé super dur, je veux dire, le fait que tu plantes 15 ou 20 millions de dollars, personne t'en voudra.
Bon, on va accélérer un petit peu sur les trucs suivants, c'est pas les plus yep. importants. Il y a des démarches administratives coordonnées pour les entrepreneurs, un truc numérique, ce qui est bien, pour éviter d'avoir 60 000 dossiers et formulaires à remplir. Suppression des obligations de publication des comptes, parce que les entreprises étrangères sont pas obligées, donc il n'y a pas de raison que les entreprises françaises le soient. Création de maisons à l'international, de maisons de l'international qui sont des sortes d'incubateurs pour aider les entreprises à s'implanter. Au départ, il y aura des maisons de l'international aux US et en Asie, donc pour aider les entreprises françaises à s'implanter à l'étranger. Bon, pourquoi pas, ça m'a l'air d'être à très petite étape du développement, parce que c'est vraiment niveau incubateur, mais bon, là encore, pourquoi
ouais,
pas.
Je pense que c'est une... Enfin, je les vois passer, en fait, tous les quelques mois, t'as des délégations françaises qui débarquent. Je veux dire, c'est pas négatif, c'est une première approche, c'est une première exposition, mais ça va pas te donner grand-chose, quoi. C'est-à-dire qu'ils ouais. débarquent ici et croient qu'on les attend avec le tapis rouge, et puis bah c'est pas le cas, quoi, parce que c'est pas comme
pendant
ça que ça se passe.
On bosse et on n'attend pas que les gens débarquent avec leur délégation.
Ouais, et puis surtout le marché américain, et c'est un marché tellement gros que c'est très difficile en fait pour une boîte internationale de rentrer sur le marché américain en tant qu'activité à part, tu vois, où ce soit, genre, on envoie un mec et puis il va être le patron du bizdev et puis il va se débrouiller, quoi. Ouais. Ça, c'est comme ça que beaucoup de boîtes se sont développées, mais ça nécessite un réel investissement, un réel commitment. C'est ça le problème, quoi. Mais bon, on peut pas dire que c'est pas négatif.
Dernier sujet, c'est la réponse aux pigeons enfin les questions sur l'imposition des cessions de sociétés. Deux choses importantes. D'une part, on avait 40 régimes différents. On passe à un régime unique pour tout le monde. Au moins, c'est clair, c'est bien. Yep. Deuxième chose, c'est donc les taux d'imposition qui vont être différents en fonction de du temps qui s'est écoulé entre l'achat ou la création d'entreprise et la revente. Alors, si on revend 2 ans après un achat ou une création, on est imposé au même niveau que l'impôt sur le revenu. Ce qui semble normal, 2 ans après, c'est quand même assez court. Donc, on ne parle pas d'investissement ou de long travail. Bon, impôt sur le revenu. Entre 2 ans et 8 ans, on a un abattement de 50% sur le taux de l'impôt sur le revenu. Donc, on paye 2 fois moins. Enfin, on paye la moitié, je veux dire. Après 8 ans, donc pour un investissement de plus long terme, un abattement de 65%. Si on a une entreprise, pour les entreprises de moins de 10 ans et si on a un départ à la retraite ou une cession familiale, on a carrément un abattement de 85% avec une franchise de 500 000 euros. Donc vraiment, là, on parle des gens qui exposaient l'un des problèmes du système qui avait été annoncé, qui était quelqu'un qui a construit son entreprise pendant toute sa vie, c'était le travail de toute sa vie. S'il le cède, s'il part à la retraite ou si c'est une cession familiale, 85% d'abattement. Bon, là, on commence à parler vraiment de quelque chose qui, à moi, me semble raisonnable. Ces chiffres-là me semblent raisonnables. Toi, Jeff, est-ce que c'est quelque chose qui change la vision? Je ne sais pas si tu avais suivi précisément l'affaire des Pigeons, j'imagine que oui.
Oui, parce que c'est mon copain Jean-David Chambourdon qui était un peu le leader spirituel du mouvement des Pigeons. Et le problème en tant que VC, c'est que si la partie économique n'a plus tout de sens, ça veut dire que tu peux plier bagage, arrêter d'investir et tu vas faire autre chose. Je pense que bon.
Mais est-ce que là c'est suffisant en fait comme les abattements?
Si tu veux, c'est positif parce que tu as un lien en fait sur le calcul qui prouve que c'est à peu près la même chose que du temps de Sarkozy. Donc ils ont en gros défait la partie négative la partie négative de ce que la finance avait fait passer. Le problème que je vois, moi, c'est que c'est basé sur un discount, donc un abattement sur les revenus plutôt que sur la plus-value. C'est-à-dire que nous, aux États-Unis, comment ça fonctionne? Effectivement, si tu as une boîte que tu la vends sous un an, tu vas payer, tu vas être imposé sur le revenu, enfin, comme si c'était du revenu, pas de problème. À partir d'un an, en gros, c'est de la plus-value. Donc, ça va être 15% au niveau fédéral et 10% en Californie, avec quelques variations. Donc, en gros, on va être taxé au maximum sur 30% de la plus-value. Et quand tu regardes, en fait, tu fais un calcul...
Après un an, en fait. C'était à 30% après un an.
Après un an. Et t'as pas de notion de... Enfin, tu vois, tous les trucs après 8 ans, 10 ans, etc. Parce que c'est comme ça, c'est relativement simple pour une fois. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas toujours très simple. Et pour moi, fondamentalement, quand tu fais un calcul sur les grosses sorties, donc tu vois, par exemple, Kevin Systrom, quand il a vendu Instagram pour 1 milliard, le Gus, il s'est fait... Allez, on va dire 300 patates. Ok, on va dire 300 millions parce que c'est un chiffre rond. Et en gros, il a payé 100 millions d'impôts, puis il est tranquille. Alors que si tu fais le calcul à la française, bon, sachant qu'il était il avait créé la boîte il y a 2 ans, bon, donc admettons qu'il avait passé 2 ans. En gros, il va se retrouver quand même à payer.
Donc, c'est impôt sur la fortune. Enfin, c'est la moitié, mais c'est impôt sur la fortune. Ça va être. Donc, plus la somme qu'il paierait aux États-Unis, c'est sûr. Oui.
Et donc, la question, c'est combien tu considères que c'est... Parce que il y avait dans l'interview que Jean-David a fait il y a ce week-end sur Europe 1, je crois, il disait le problème, c'est qu'on aime bien aller brûler nos idoles et nos riches. Et le problème, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que les Français acceptent que c'est pas une... La, la pizza, elle a pas une taille fixe, et donc quand quelqu'un en prend une grosse part, ça veut pas dire que les autres personnes en prennent moins. Non, c'est on fait grossir la pizza pour tout le monde. Mmh. Et donc le fait d'avoir des sorties qui ramènent beaucoup d'argent à des gens qui ont travaillé très dur pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans, etc. C'est ok, c'est pas un problème. Et c'est ça en fait je disais ça aux HEC qui sont venus nous voir, c'est que je veux pas dire qu'on a une attitude laxiste par rapport au fric, mais ici, tu peux pas être fier du fric que t'as parce que t'as toujours un mec qui en a plus que toi.
Quand tu dis ici, c'est en France.
Dans la vallée. D'accord. Et donc, personne, parce que en gros, il y avait un petit Français qui nous a posé une question au panel en disant vous avez l'air de brasser du fric et on dirait que ça vous gêne pas. Je dis non, parce que de toute façon on a travaillé dur pour gagner de l'argent, et puis de toute façon tu peux pas garder l'argent que tu as comme un différenciateur par rapport au mec d'à côté, parce que la probabilité qu'il en ait plus que toi, sauf si t'es Mark Zuckerberg, parce que bon, avec ses
il y a quand même des limites,
ses 28 milliards, déjà il est bien blindé, mais je veux dire, c'est pas malsain. Et personne en fait pense à ça, parce que j'ai jamais rencontré ou j'ai jamais fundé un fondateur qui me dit je monte cette boîte parce que je veux m'en mettre plein aux as. Ils ont des visions grandioses et des fois grandiloquentes, mais c'est jamais je veux me retrouver au-dessus d'une pile de cash de 100 millions, parce que c'est pas comme ça que tu fais. Enfin, si tu veux faire de l'argent comme ça, tu vas sur Wall Street, t'es pas entrepreneur.
Ouais.
Et donc, je pense que le jour où on arrive à arrêter la chasse aux sorcières aux riches en France, il y aura aussi une évolution des mentalités, parce que je veux dire, c'est pas malsain, faut pas déconner.
Donc en fait, finalement, pour l'analyse de toutes ces annonces des assises de l'entreprise, moi je les trouve plutôt positives. Toi, bon, d'après ce que je comprends, tu les trouves positives aussi, mais c'est pas le cœur du problème, quoi. J'entends ce que tu dis, et je me dis peut-être que le moyen d'arriver à cette désorciérisation de la richesse, c'est peut-être effectivement de changer la culture, comme tu en parlais tout à l'heure, de changer la culture petit à petit sur 10, 15, 20 ans, et de valoriser l'entrepreneuriat, de valoriser ce volontarisme, et que au bout d'un certain temps, bon. On parle beaucoup des États-Unis parce que, encore une fois, ne nous voilons pas la face, c'est ce que chasse le monde de l'économie et de l'industrie tech en particulier. Hein. C'est la Silicon Valley qu'on chasse, c'est les réussites qu'on aimerait voir en France. Donc c'est normal qu'on fasse des parallèles aussi clairs et aussi souvent. Mais la France n'est pas les États-Unis, et je pense pas qu'on va arriver à un niveau de disons le terme, de capitalisme aussi débridé en France qu'on a aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley. Donc je pense pas que on puisse avoir une comparaison un à un et dire si on n'a pas ça, c'est qu'on n'a pas, on n'est pas arrivé là où on voulait arriver, tu vois. Donc
et tu as tout à fait raison. Et de toute façon, j'ai toujours dit à tous les officiels français que j'ai rencontrés qui me disaient comment on construit notre propre Silicon Valley, c'est vous y arriverez jamais, c'est même pas la peine d'essayer, parce que par définition ça fait 40 ans que c'est en gestation, que l'environnement est unique. Et quand je parle vraiment, quand je dis bouger dans la Silicon Valley, c'est vraiment dans la Silicon Valley. Tu vas au Texas, tu vas en Floride, tu vas ailleurs,
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Donc tu as raison, je dis pas oh c'est pas aussi bien qu'ici donc ça vaut rien. Je pense que c'est super positif. Et j'applaudis l'ensemble de ces mesures. Pour moi, la seule qui manque, que j'ai identifiée, c'est offrir aux entreprises, aux jeunes pousses, la flexibilité de l'emploi. C'est-à-dire que si jamais, tu vois, c'est très difficile de prévoir ton cash flow, tu as du funding, tu n'as pas de funding, et tu peux pas te retrouver stock avec... tu vois, si tu dois attendre un an avant de virer un ingénieur qui fait pas le boulot que tu attends de lui, ça va poser un énorme problème à la petite boîte, quoi. Donc il faut donner cette flexibilité pendant les quelques premières années. Je crois qu'il y a certains contrats d'emploi ou des aménagements qui ont été faits, donc c'est positif, mais je veux dire, la flexibilité de l'emploi, c'est aujourd'hui un tabou en France, et ça peut pas, parce que ce sera ne pas adopter ce genre de mesures, c'est limiter la compétitivité de la France. Point.
Et il y a un truc qui est... Pardon, fini.
Vas-y.
Je
veux dire, c'est le reste de l'environnement, et comme ça, que ce soit juste ou pas juste, c'est pas la question. C'est comme ça que on est dans un monde global, et on se doit de s'adapter en tant que plateforme. Et si la France, ben, c'est ce que disait Xavier Niel dans une interview ce week-end, aujourd'hui la France est numéro 5, hein, je veux dire, si on fait pas attention, dans 15 ans, numéro 25.
Ben, c'est intéressant cette question de la flexibilité dans l'emploi, et c'est un débat que tout le monde a eu mille fois, mais je pense qu'il y a une chose qu'on ne voit pas forcément dans cette intention d'augmentation de la flexibilité de l'emploi, que soumettent les gens qui sont un petit peu plus de droite, c'est que l'idée n'est pas de pouvoir virer n'importe qui quand tu veux parce que t'es méchant et que tu veux virer les gens à tour de bras. L'idée c'est que on l'a déjà dit, mais je le répète parce que c'est un sujet sensible, en favorisant la flexibilité de l'emploi, tu favorises du même coup l'emploi, parce que les gens sont décomplexés, enfin n'ont plus peur d'employer quelqu'un, et donc ils vont plus facilement les employer. Donc il faut pas voir les choses de manière binaire en se disant « Ah, mais voilà, si on peut virer les gens, ça fait qu'on ne va que les virer ». Ceci dit, je pense que, enfin, moi personnellement, j'ai jamais caché le fait que moi j'étais plutôt de sensibilité de droite. Encore que ces derniers temps, j'ai beaucoup exprimé ma solidarité avec le gouvernement de Hollande, notamment sur des questions sociales. Mais pour un gouvernement
sur la partie mariage homosexuel, complètement,
ouais,
absolument.
Et donc, en l'occurrence, sur ces mesures, bon, moi n'étant pas un grand spécialiste de l'économie, mais à mon petit niveau et en tant que connaisseur, commentateur de l'industrie tech, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses plutôt intéressantes. Il y a peut-être, on pourrait certainement aller plus loin, mais il y a des choses intéressantes et surtout des choses surprenantes. C'est vraiment une sorte de 180 degrés, de virage à 180 degrés par rapport à ce qui a été dit au début des concertations avec l'affaire des pigeons. Il y a un vrai retournement, une vraie attention du monde de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, comme le dit Jean-David Jean Bourdon dans l'interview que tu m'as fait passer, c'est bon, on est un petit peu maintenant dans l'attente parce qu'on se dit oula, ils ont dit un coup, ils ont soufflé chaud, un coup soufflé froid. Mais là, c'est clairement quelque chose, on sent qu'ils sont à l'écoute et il y a des choses qui vont dans le bon sens. Donc moi j'ai été très agréablement surpris, quoi.
Tout à fait, et c'est pour ça que dans ce contexte-là, l'affaire Dailymotion n'a absolument aucun sens.
Ouais, ouais, ouais.
Ça n'a, mais c'est en gros, voilà, on voit ce qu'on veut faire pour l'entrepreneuriat, le machin, le truc, le bidule, super positif. Je veux dire, Dailymotion aurait pu être la cerise sur le gâteau. Et regardez, Yahoo nous rachète. C'est même pas nous rachète, puisqu'il rachetait 75%, 70% de la boîte. Ouais. Paye 300 millions pour une des pépites françaises, c'est super. C'est la première d'une longue ligne de rachat majeur de boîtes françaises, ce qui n'a pas été fait depuis un bout de temps, quoi. Non. Non seulement ils voient pas ça comme une opportunité, ils butent le projet.
Ouais.
Et en gros, tu vois ça, tu te dis ok. Et donc malheureusement, ça décrédibilise dans l'esprit des gens toute la bonne volonté qui a été mise dans ces différentes mesures, parce que par définition, c'est ok, c'est du pipeau. Regarde, la première fois qu'ils ont pu mettre en place une application de l'entrepreneuriat à la française, c'est beau, c'est grand, c'est fort, paf, on bute le projet.
Bon, espérons que les choses seront rattrapées à l'avenir. On est à la première année du gouvernement. Il y a encore 4 ans pour qu'il corrige les choses. On verra comment ça se passera. On continuera à suivre ça, en tout cas, avec énormément d'attention. Jeff, t'as encore 10 minutes ou il faut que tu files?
Je vais devoir te quitter, mais j'allais juste dire que le verdict pour les Google Glass, bah malheureusement, j'ai pas été faire de la pression ou du tirage de pompe là où il faut chez Google, donc j'ai pas encore les miennes. Chier, mais je pense que c'est tu peux pas ignorer les Google Glass. Le fait que les gens aiment, ça n'a aucune implication sur la signification de cette technologie. Et je pense que une fois que je les ai mis sur mon nez, je te dirai ce que j'en pense. Mais je pense que c'est vraiment une technologie fondamentale.
Ouais, bah effectivement, le sujet c'était est-ce que les Google Glass, personne les aime. Il y a une série de critiques de la chose, mais l'une des choses les plus intéressantes, c'était un article de Wired qui parlait justement du fait que les Google Glass sont portés par des mecs tellement geeky, nerdy, tout ce qu'on veut, de Robert Scoble et d'autres, que ça le transforme en nouveau Segway ou en nouveau oreillette Bluetooth, ce genre de choses qui sont techniquement magnifiques et révolutionnaires, mais qui finalement ont une image tellement beauf que ça se plante sur le marché. Mais bon, c'est un débat qui sera intéressant d'avoir quand elles seront plus largement
La bonne nouvelle, c'est que Google fait tellement de fric que si leur voiture qui se conduit tout seul et leur Google Glass mettent 10 ans à avoir une adoption de masse, ils en ont rien à foutre. Parce que de toute façon, la planche à billets fonctionne au niveau search et advertising.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok, voilà, voilà. Bah écoute, Jeff, je te remercie de ton analyse intéressante et astute, fine comme d'habitude. Donc, on te donne rendez-vous dans un mois pour le prochain rendez-vous tech avec Jeff.
Absolument. Et que qu'on soit clair, c'est même si j'ai toujours quelque chose à redire, je pense que tous ces développements qui ont été poussés par le gouvernement sont très positifs.
D'accord.
Donc, in fine, l'entrepreneuriat en France est en meilleure situation, meilleure posture, grâce à ces mesures. C'est juste dommage qu'ils se soient foutus, qu'ils se soient pris les pieds dans le tapis et qu'ils aient planté Dailymotion, parce que ça aurait été vraiment une super opportunité de créer en fait l'ascenseur qui aurait été super positif pour tout le monde, avec une preuve concrète du développement des boîtes françaises.
Mmh, c'est vrai.
Voilà, tant pis.
Bon, la prochaine fois.
Allez,
merci en tout cas, Jeff.
À plus.
À bientôt.
Salut,
ciao, ciao.
Salut à toutes.
Bon, eh ben, je vais continuer et finir cette émission tout seul comme un grand. Donc, pour finir sur la question des Google Glass, il y avait effectivement cet article intéressant dans Wired. Je vous invite à aller le lire. C'est simplement cette idée que cette comparaison, en particulier avec le Segway, qui était vraiment vu à sa conception comme quelque chose de révolutionnaire qui allait transformer les villes. Vous savez, le Segway, pour ceux qui sont trop jeunes et qui s'en souviennent pas, c'est cette sorte de scooter gyroscopique qui est en fait simplement deux roues sur lesquelles on monte, qui fait la taille à peu près d'une personne au niveau de l'empreinte, et qui vous permet de vous déplacer très facilement dans les villes. Donc ça allait supprimer les voitures, machin. Et en fait, l'un des problèmes, selon l'analyse d'une grande partie de la population, c'est que l'objet en lui-même est techniquement génial et révolutionnaire, mais concrètement, ça a une image qui l'a largement freiné, et même plus que freiné, qui l'a fait se planter. Et beaucoup de gens disent les Google Glass ont le risque d'avoir ce même problème. Entre parenthèses, il y a aussi d'autres petits soucis dans les analyses. Certains disent que la batterie est assez et dure pas assez longtemps, c'est quelques heures, genre 3 à 4 heures. Donc si c'est un truc qu'on est censé avoir sur la tête toute la journée, c'est pas génial. Ça vous donne mal à la tête, on peut pas voir l'écran quand il fait beau. On peut pas les contrôles vocaux sont mal foutus, on a besoin d'un téléphone pour l'utiliser, bon, ça à la limite on le savait, etc., etc. Je pense que la plupart des analyses sont quand même un petit peu sévères, surtout que c'est une édition bêta des Google Glass, c'est le tout début du prototype, le truc a été annoncé il y a un an, je pense qu'on peut lui laisser un petit peu plus de temps pour émettre un jugement solide, mais le fait que l'image de l'appareil soit quelque chose d'important, c'est vrai que c'est quand même à souligner. Ça a tué des produits qui étaient tout aussi révolutionnaires que les Google Glass. Et bon, c'est vrai que là, quand on a vu l'analyse qu'en a fait Scoble et la photo qu'il a pris lui sous la douche, si certains d'entre vous l'auront peut-être déjà vu, c'est un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu inquiétant. Ceci dit, il y a aussi une vidéo qui a été mise en ligne par Google sur l'interface et les moyens de contrôler Google Glass. Donc, on la mettra en lien dans les notes de l'émission. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça si vous l'avez pas encore vu. Moi, je l'ai posté partout sur mes comptes Twitter, Facebook et Google+. Donc, si vous l'avez pas encore vu, vous pourrez la trouver dans les notes de l'émission. Mais c'est quelque chose d'assez intéressant de voir enfin comment ça marche concrètement, le petit panneau tactile, comment on lui donne des instructions, etc., etc. Bon, c'était notre dernier sujet à retenir, sur les infos à retenir. Après l'affaire Yahoo Dailymotion et les mesures du gouvernement, on avait donc Google Glass. Et donc on passe à la partie du sponsor qui est le Fanshop No Watch. Vous savez que No Watch, le groupe, va bientôt fermer ses portes, même si les émissions elles-mêmes continuent à exister. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toujours les boutiques. Et évidemment, c'est un moyen de nous filer un coup de main qui est plus qu'appréciable, puisque ça nous permet de finir les choses proprement, ce qui n'est pas forcément évident puisqu'on on ferme les portes pour cette raison aussi. Il n'empêche, il y a de très beaux goodies sur le fan shop que vous connaissez. Il y a aussi des t-shirts sur le workshop, qui est donc la boutique spécialisée t-shirt de Spreadshirt, qu'on utilisait il y a un moment, mais on l'a ravivé. Et il y a des logos avec le fameux Yoda avec l'œil. Il y a Techlog, Niptech, etc., etc. Donc, si vous voulez vous-même vous créer des t-shirts custom, vous pouvez vous faire différents logos à différents endroits, c'est possible aussi. Donc vous pouvez aller faire un tour sur la boutique No Watch, vous avez le lien sur la boutique dans la barre du haut sur la droite, et vous avez accès aux deux boutiques. On vous invite à aller y faire un petit tour pour nous soutenir. Et donc on conclut l'émission, ou plutôt on fait la dernière partie de l'émission, les news et rumeurs. On en a quelques-unes quand même, plutôt sympa et à la fois un petit peu inquiétante, notamment le fait que la Cube 3D Printer arrive chez Staples, qui est une chaîne de fourniture de bureaux, de vente de fourniture de bureaux aux États-Unis. C'est la première imprimante 3D qui arrive vraiment sur le marché dans la grande distribution. Elle coûte $1,299, donc c'est un tarif qui commence à devenir, bon, il y avait d'autres tarifs à peu près équivalents, mais là on peut carrément aller dans une boutique, l'acheter et la ramener à la maison, et ça marche. Donc c'est une imprimante 3D qui fonctionne. Évidemment, il faut ensuite racheter des cartouches, et ça peut coûter un petit peu cher aussi, mais c'est encore une étape dans cet avènement de la révolution de l'impression 3D. Et si vous êtes complètement fou de joie et que vous vous dites ça y est, l'impression 3D c'est magnifique, ça n'a que des côtés positifs, c'est la liberté, le bonheur et la joie, eh ben sachez aussi que le pistolet imprimé, qui est un projet d'un jeune homme qui voulait faire imprimer un véritable pistolet, hein, qui tire des balles qu'on peut acheter dans le commerce, enfin des vraies balles standards. Eh bien, ce pistolet imprimé, qui s'appelle le Liberator, est en phase de fin de développement, et les plans seront mis en ligne et disponibles pour à peu près n'importe qui très bientôt. Et donc, ça voudra dire que n'importe qui pourra acheter une imprimante 3D et télécharger les plans sans aucun contrôle, sans aucun... Bon, aux États-Unis, il est facile d'acheter une arme, mais vous imaginez bien que dans d'autres pays, c'est pas aussi facile. Et là, ça pourra être de la même manière qu'on télécharge un film ou une série télé ou un morceau de musique, eh ben on pourra télécharger les plans d'un pistolet, d'un véritable pistolet, et qui fonctionne. Donc, voilà. C'est comme toujours, hein, la technologie a des applications intéressantes et des applications inquiétantes. Celle-ci, je vous invite à aller découvrir plus de détails sur le net, on en parle beaucoup en ce moment. Mais le gros de l'histoire, c'est ça, le pistolet imprimable sur une imprimante 3D, n'importe quelle imprimante 3D, arrive très très bientôt. On parle de semaines ou de jours même pour la disponibilité des plans. Je vous laisse méditer sur la chose. Autre nouvelle pour les 20 ans du web, le CERN a remis en ligne la première page jamais créée à son adresse originale. Je vais pas lire l'adresse, bon allez, je vais le faire, c'est une sorte de célébration. L'adresse c'est info.cern.ch/hypertext/www.theproject.html. J'ai un souvenir assez ému de ces premières pages que j'avais vues en ligne. Je pense pas avoir vu celle-là. J'ai dû arriver un tout petit peu après, mais il y a 20 ans, presque jour pour jour, on parle de mai, fin avril, début mai 1993. Moi, j'étais étudiant à l'université et j'avais vu, si c'était pas en mai, c'était très peu de temps après, les premières pages avec des photos, des trucs comme ça. C'était incroyable. Sachez que avant cet avènement du World Wide, enfin cette invention vraiment du World Wide Web, il n'y avait pas de web. Donc, Internet, c'était juste des serveurs, comme on voit dans les films, avec des lignes de commande, comme le DOS et ce genre de choses. Enfin bon, c'est cette idée des liens dans le texte qu'on peut cliquer, donc cet hypertexte, est quelque chose qui a vraiment, évidemment, révolutionné Internet et révolutionné le monde. Et c'est marrant de se souvenir de cette première page qui était vraiment, évidemment, hyper simple. Et qui a donné lieu à toutes les évolutions qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai commencé à voir des choses vraiment intéressantes en HTML5 dans le domaine du jeu vidéo qui ne nécessite plus Flash et de la vidéo tout court, de la transmission de vidéo. Ça commence à devenir vraiment, vraiment intéressant. Le HTML commence à arriver à un niveau plus qu'intéressant. Dernière petite news, enfin deux news techniques sur la connectivité en France. La 4G de Bouygues sera disponible le 6 mai dans 6 villes, Lyon, Strasbourg, enfin je dis sera, c'est aujourd'hui, le lundi où on enregistre l'émission. Donc est disponible à partir d'aujourd'hui, et donc quand vous écoutez cette émission depuis un ou plusieurs jours, donc dans 6 villes, dans Lyon, Strasbourg, Issy-les-Moulineaux, Vanves, Malakoff et Toulouse. Donc c'est le lancement de la 4G de Bouygues, ça veut dire que la 4G, ça commence à s'accélérer, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le VDSL 2 sera lancé à l'automne. Si vous ne savez pas ce que c'est que le VDSL, c'est la prochaine évolution de l'ADSL, qui a passé beaucoup de temps dans les méandres des régulations et de l'administration du gouvernement, qui enfin a été approuvé, sera lancé à l'automne. Si vous attendez des augmentations invraisemblables de votre vitesse de connexion, sachez que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, à vrai dire, c'est le cas pour très peu de gens. C'est une amélioration certaine, mais c'est surtout que ça va permettre de porter des performances équivalentes à la DSL de plus un petit peu plus loin. Si vous êtes très près de votre répartiteur, ça améliorera vos performances. Dans l'ensemble, ça va pas changer la vie de grand monde. Mais c'est quand même une bonne évolution. Disons que ça améliore les performances quand on a une distance qui est inférieure à 1 km. Donc ça va pas permettre d'avoir des plus de connexion dans les campagnes ou ce genre de choses. Donc bon, c'est une étape qui est pas forcément hyper importante non plus, mais qui est importante à signaler tout de même. Eh ben écoutez, je crois qu'on arrive donc à la fin de l'émission. J'espère sincèrement que les sujets vous auront intéressé et que nos analyses vous auront intéressé. Je vous invite à faire deux choses. C'est peut-être un petit peu tard pour dire ça, mais à voir l'analyse comme quelque chose qui essaye au moins d'être objectif. Je sais que les sujets politiques sont toujours un petit peu délicats à traiter dans notre société et en particulier dans les podcasts. Donc on essaye de le faire toujours avec une intention d'objectivité en tout cas. Si jamais les choses qu'on a dit ne vous ont pas convaincu ou si elles vous ont convaincu et que vous voulez en ajouter, je vous invite évidemment à venir commenter dans les notes de l'émission, toujours dans la sérénité et dans la politesse s'il vous plaît, hein, c'est une chose qu'on réussit à conserver toujours dans les émissions que j'anime et sur No Watch en général. Donc j'espère qu'on va continuer cette tradition, mais les discussions sont toujours intéressantes, donc n'hésitez pas à venir nous dire si vous êtes en train de bouillir de l'autre côté de votre smartphone ou de votre iPod et que vous voulez nous répondre, n'hésitez pas à le faire, ou ajouter de l'eau à notre moulin aussi, hein, c'est toujours apprécié. Donc voilà pour la petite parenthèse sur les questions politiques, mais c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on les traite parce que c'est ce qui fait aussi bon tous les gadgets super cool et les appleries et les androideries et les Google Glasseries, c'est toujours cool, mais c'est aussi ça qui fait que le monde et l'industrie tech sont intéressants, donc c'est toujours quelque chose qui est bon à traiter, surtout quand, en l'occurrence, les nouvelles sont plutôt bonnes. Je reste sur ce point de vue. Donc voilà, bref, venez commenter sur les notes de l'émission, ça nous fera plaisir. Quoi dire d'autre avant de conclure ? Évidemment que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est @Jeff dans le cas de Jeff Clavier, et dans mon cas c'est @NotPatrick, on parle de Twitter évidemment. Je suis aussi sur Google Plus et sur Facebook. Vous pourrez retrouver tous les liens dans les notes de l'émission là encore. On a les liens vers tous les réseaux sociaux. Et puis voilà, on arrive donc à la fin. Je vous invite à passer une excellente semaine. Je suis sûr que le fait de vous y inviter rendra la chose plus facile. Et puis on se retrouvera... Ah non, pas une semaine, mais je vous invite à passer deux excellentes semaines. Et puis on se retrouvera donc dans deux semaines pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. On sera donc allez, un petit peu plus proche du mois de juin. Et il se passera des choses plutôt intéressantes, notamment avec la keynote WWDC. Donc la Worldwide Developer Conference qui aura lieu le 10 juin et pour laquelle on aura normalement, si tout va bien, un upload live pour la suivre en direct. Il y aura notamment très certainement l'annonce d'iOS 7. Ça sera quelque chose d'intéressant aussi. Donc les rumeurs sur la prochaine version d'Android et sur la prochaine version d'iOS vont commencer à arriver à un rythme accéléré. Donc ça sera forcément quelque chose dont on discutera également. Si vous êtes plutôt geek de ce type de d'informations, plus que les questions gouvernementales, vous inquiétez pas, ça arrive également. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à dans deux semaines. Ciao à tous.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.